Écho d'économie.
Les importations de produits pétroliers chutent de 50% à Goma, au Nord Kivu. C'est sur fond de baisse du pouvoir d'achat et d'instabilité sécuritaire. Toujours au Nord Kivu, la société civile de Watalinga alerte sur l'exportation frauduleuse du cacao vers l'Ouganda via Nobili et appelle les autorités à une action urgente pour protéger l'économie locale. Bienvenue à tous. Commençons au Nord Kivu où le volume des importations des produits pétroliers a baissé de 50%. Les opérateurs économiques dans ces secteurs qui pouvaient facilement importer 3 à 4 camions le mois rencontrent des difficultés pour écouler un camion, ne serait-ce que mensuellement, déplore la Corporation des pétroliers au Nord Kivu. Parallèlement, on note la baisse de la fiscalité douanière de ces produits au niveau du poste douanier de la Grande Barrière. Cependant, en dépit de cette baisse, la consommation n'a pas suivi parce que le pouvoir d'achat du consommateur a fortement baissé lui aussi. Ronéline Tibonera nous en dit plus.
Au niveau de la ville de Goma, celui qui consommait 50 litres de carburant par semaine, par exemple, consomme aujourd'hui difficilement 20 litres au moins, nous révèlent les opérateurs pétroliers. De même, un camion qui quittait Goma pour Kisangani, qui consommait facilement entre 2000 et 2500 litres, c'est une chose qui ne se fait plus. Tous les autres trafics entre Goma et le reste de la République démocratique du Congo sont inexistants aujourd'hui. Ainsi, de nombreuses ONG humanitaires qui consommaient du carburant ont suspendu momentanément leurs activités. Tout ceci a entraîné des conséquences sur les importations des produits pétroliers et a fait sérieusement baisser le volume des importations, déplore un pétrolier. En termes de pourcentage, il estime à 50% la baisse des importations des produits pétroliers. Du point de vue de la fiscalité, cet opérateur note tout de même une diminution des frais douaniers. Un camion de 40 mètres cubes qui payait 13 000 dollars paye actuellement 9 000. Cependant, cette baisse n'a pas d'incidence sur la consommation, alors que la logique aurait voulu que cette baisse la consommation, ce qui n'est pas le cas, tout simplement parce que le pouvoir d'achat du consommateur a fortement baissé. Le dit pouvoir d'achat est la cause de la fermeture des banques ainsi que les déplacements d'un grand nombre d'habitants vers l'extérieur de la ville. À cela s'ajoute également l'insécurité qui prévaut au quotidien dans la contrée.
Malgré cette chute vertigineuse des importations des produits pétroliers, certaines dynamiques économiques semblent résister à la crise, une résilience que l'on observe dans d'autres segments de l'économie locale. En tout cas, on observe une reprise progressive des activités socio-économiques en dépit des défis sécuritaires et financiers qui persistent dans les zones occupées du Nord Kivu. Du petit commerce, notamment l'approvisionnement en produits vivriers manufacturés en passant par la production locale, mais aussi l'import-export, il s'observe une certaine résilience dans les secteurs économiques selon plusieurs témoignages. Tout le monde cite comme difficulté majeure la paralysie du système bancaire qui empêche le redécollage des activités. Jacques-Yves Molima nous en parle.
Dans les secteurs de la production locale, par exemple, les entrepreneurs témoignent que plusieurs petites et moyennes industries ont repris les activités, notamment dans les domaines des services, de l'agroalimentaire et autres. C'est là grâce, entre autres, au rétablissement du courant électrique, explique-t-il. Actuellement, la situation évolue progressivement, affirment certains entrepreneurs, bien que l'absence de liquidité reste un frein majeur. Pour contourner ces défis, les opérateurs économiques vont s'approvisionner en liquide, soit à Beni, au Rwanda, en Ouganda et même en Tanzanie. Autre moyen qui se développe localement, c'est l'utilisation du système électronique, notamment les Mobile Money. Les entrepreneurs affirment qu'ils parviennent à payer leurs fournisseurs en ligne afin de se procurer des matières premières et résoudre d'autres charges. Toutefois, il s'observe une fluidité des activités commerciales, mais les opérateurs parlent d'une baisse sensible du nombre des consommateurs ainsi que du taux de vente. Ils expliquent cela d'une part par le retour massif de milliers de déplacés de guerre dans leur village d'origine. La présence de ces derniers à Goma et autour constitue en quelque sorte une opportunité d'affaires, à savoir qu'une importante quantité d'assistance humanitaire était achetée auprès des producteurs locaux. Les entrepreneurs évoquent aussi la suspension de plusieurs barrières illégales, ce qui a mis fin aux tracasseries, facilitant ainsi les opérateurs économiques.
En dehors de Goma, d'autres réalités préoccupantes affectent la stabilité économique de la province du Nord Kivu. Direction la chefferie de Watalinga, dans le territoire de Beni, où une fraude à l'exportation de cacao fragilise l'économie locale. La société civile de l'entité dénonce cette exportation frauduleuse du cacao vers l'Ouganda à partir du poste frontalier de Nobili. C'est à plus ou moins 90 km de la ville de Beni. Cette structure citoyenne qui s'inquiète de la situation appelle à l'implication des autorités pour y mettre fin. Les détails avec Martial Papimukeba.
Pour la société civile de Watalinga, cette fraude implique des militaires des FRDC qui participent activement à cette opération. Odette Zawadi en est la présidente.
La fraude est organisée par les différents services se trouvant le long de la frontière. Vous trouvez par exemple le colis de cacao qui sont accompagnés par le service militaire en tenue et en armes, faire traverser le produit au niveau de l'Ouganda.
Le colonel Mac Azukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola Incranor, annonce une action de la justice militaire.
Aucune autorité militaire ne peut mandater un officier ou un soldat de l'armée la mission de tremper dans le commerce de cacao ou autres produits. Si ces allégations-là sont avérées, la justice militaire va s'en occuper.
Rappelons que Nobili et Kasindi, dans les territoires de Beni, frontaliers avec l'Ouganda, sont les deux postes frontaliers du Nord Kivu, encore sous contrôle du gouvernement, depuis l'occupation de Bunagana, Ishasha, Munyaga, ainsi que des grandes et petites barrières de Goma par les M23. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant que les provinces font face à des défis spécifiques à Kinshasa, le regard est tourné vers la performance macroéconomique du pays. La Banque centrale du Congo vient de publier sa dernière note de conjoncture qui révèle que l'État congolais a mobilisé près de 1900 milliards de francs congolais en mars 2025, soit 642 millions de dollars américains. Une performance remarquable qui représente une augmentation de 17,8% par rapport à la même période en 2024. Malgré cette performance, le Trésor enregistre un déficit dû aux dépenses qui sont plus élevées que les recettes. Plus de détails avec Ben Chokuta.
Au total, 1897,5 milliards de francs congolais ont été atteints, soit un montant équivalent à 642,3 millions de dollars au cours des mois de mars 2025, représentant un taux de réalisation de 95,6%, légèrement en dessous des prévisions fixées à 1985,3 milliards de francs congolais. En termes de contribution, il y a lieu de souligner que les recettes tirées des impôts directs et indirects de la Direction générale des impôts ont totalisé 779,9 milliards de francs congolais contre une prévision de 678,4 milliards de francs congolais. Les recettes de la DGDA se sont établies à 547,4 milliards de francs congolais contre une programmation de 693 milliards de francs congolais. S'agissant de la parafiscalité encadrée par la DGRAD, elle a ramené au trésor public 570,2 milliards de francs congolais contre un montant prévisionnel de 496,8 milliards de francs congolais. Cependant, les dépenses publiques ont également augmenté dépassant de 38,6% les prévisions, principalement en raison de la hausse des salaires et des subventions, précise la BCC. Malgré cette hausse des recettes, la situation financière de l'État affiche un déficit de trésorerie de 1750 milliards de francs congolais à la fin du premier trimestre 2025. Ce déficit s'explique par des dépenses qui continuent de dépasser les recettes.
Et dans ce contexte financier tendu, le gouvernement mise aussi sur des projets d'infrastructures pour relancer la croissance. Parmi eux, le port en eau profonde de Banana, dont la livraison pourrait intervenir en 2026. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un communiqué de la primature après des discussions jeudi à Dubaï entre la première ministre congolaise Judith Suminwa et les dirigeants de DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial. Retrouvons encore une fois Ben Chokuta pour les détails.
Cette rencontre entre Judith Suminwa Tuluka et le dirigeant de DP World, troisième opérateur portuaire mondial, a permis de débloquer le projet stratégique du port en eau profonde de Banana. D'après la première ministre, ce port pourrait avoir les premiers navires dès l'année prochaine. DP World, de son côté, s'engage à livrer le quai initial de 700 mètres dès l'année prochaine. Un quai capable d'accueillir les plus grands navires et doté d'une capacité de manutention de 450 000 équivalent à 20 pieds par an. Le projet initié en 2021 permettra de renforcer les exportations et d'offrir un accès plus compétitif aux marchés internationaux. Selon le communiqué de la primature que nous avons consulté, le PDG de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, s'est réjoui du soutien affiché par la première ministre et a confirmé l'engagement de son groupe à respecter les délais et les qualités des travaux.
Écho d'économie.
Et pendant que certains projets avancent, d'autres suscitent la controverse. C'est le cas du projet de réhabilitation de la cité de Mwanda, entaché par des soupçons de détournement de fonds selon la LICOCO. Dans son rapport parvenu jeudi à Radio Capi, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption expose un détournement de 10 millions de dollars américains destiné au projet de rénovation de la cité côtière de Mwanda au Congo central. Ce document met en cause Didier Boudimbou, ministre des Sports et ex-titulaire des hydrocarbures, qui aurait ponctionné la somme de 200 000 dollars américains à titre personnel dans cette enveloppe allouée par la société Perrinco. Tous nos efforts pour joindre le ministre incriminé se sont avérés vains. On écoute les détails de Blaise Ndongala Mayanda.
Selon ces rapports de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, devenue virale sur les réseaux sociaux, ces fonds, issus d'un avenant numéro 9 signé entre l'État congolais et la société pétrolière Perrinco, devaient financer des projets locaux pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie à Mwanda. Or, près de 90% de l'enveloppe aurait été dilapidée, note cette organisation citoyenne. La LICOCO affirme que la somme de plus de 8 millions de dollars américains ont été injectés dans des projets non réalisés et inachevés, tandis que 700 000 dollars américains restent introuvables dans les comptes. Ces rapports accusent Didier Boudimbou, alors ministre des Hydrocarbures, de s'être personnellement attribué la somme de 200 000 dollars américains sans justification. Les mêmes documents de la LICOCO accablent également Michel Makengo, nommé à la tête du comité de gestion des fonds de Mwanda, et lui reproche d'avoir perçu la somme de 132 000 dollars américains en frais de mission. Pire encore, poursuit la LICOCO, le siège de ces comités a été installé à Kinshasa, à plus de 300 km de la zone concernée, rendant ainsi toute supervision locale impossible.
Ainsi s'achève ce numéro d'Écho d'économie. Mimi Kindou et Debs Vita étaient à la technique. Je suis Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.